Bonjour à tous. Il y a deux semaines, nous étions un certain nombre donc à Damary-les-Lys, donc au week-end de l'église persécutée. Et je dois vous dire que quand on se décide à y aller, il y a la machine à calculer qui se met en route quelquefois. Puis je me disais, Seigneur, oh, ça fait de l'argent, ça fait du temps, de la fatigue, etc. Bon, peut-être ce serait aussi bien que je fasse à l'église persécutée, donc à portes ouvertes, le chèque, l'équivalent, et puis pensant que mais ça peut être une solution. Hein. Donc j'avais une hésitation, et quand je suis arrivé là-bas, assez rapidement, je me suis dit, ouais, Seigneur, merci, je suis à la bonne place. Et donc, je vous invite à y aller si vous le pouvez. Et puis, donc on y avait été il y a 2 ans. À chaque fois, c'est un moment vraiment particulier où on sent vraiment que le corps est un tout, qu'il soit ici en France, qu'il soit en Chine, qu'il soit au Pakistan, qu'il soit partout en Afrique, enfin, etc. Et je me disais, l'Église persécutée, en fait, donc le zoom est sur ce sujet-là aujourd'hui. Ça devait être dimanche dernier, mais Siméon n'était pas disponible, donc nous avons choisi de le déplacer aujourd'hui. Donc nous allons en parler. Et je relisais quelque chose qui est sur mon cœur aussi. Frère André disait que je crois que l'Église persécutée nous apporte plus que nous ce que nous pouvons lui apporter. En tout cas, bien autre chose qui est profond, qui vient nous toucher dans notre dans notre intégrité vis-à-vis de notre foi. Donc nous allons parler de tout cela. Donc je voulais dire quels étaient les témoins qui étaient avec nous donc à Damary. Donc il y a Anne-Marie et Olivier qui sont là. Vous pourrez aller les voir, leur demander si c'était aussi bien que ce que je dis. Catherine et Eloge, Jeannette qui est là. Donc Siméon bien sûr, et puis donc il y avait ma bien-aimée Annie, Timothée, et puis Esther y était aussi quoi. Donc ça fait quelques-uns, et je vous encourage vraiment à aussi aller sur le site de Portes Ouvertes, parce qu'il est très riche quand vous cherchez un renseignement sur une nation, une information. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses quoi. Et donc, le thème de ce week-end était « Croire à contre-courant, la foi des chrétiens ». Croire à contre-courant. Donc, je ne vous annonce pas quelque chose de vraiment nouveau, mais je voudrais qu'on regarde ça pour ce qui nous concerne, nous, ici à Rennes, ici en France. Quoi. Donc, d'abord, nous allons voir une vidéo donc, qui est la présentation de ce dimanche de l'église persécutée, qui est très bien fait. Si j'arrive pas à le lancer, Yvan, tu vas pouvoir le lancer, parce que on a créé un suspense qui n'était pas attendu.
Quand on est chrétien au Vietnam, on nous remarque du fait de notre mode de vie, notre manière de parler, notre comportement. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec notre entourage.
Beaucoup se moquent de moi et disent des choses horribles qui me rendent très triste. À chaque fois que je les entends, ça me brise le cœur. Les gens de mon village et ma famille remettent en question ma foi. Ils disent « Pourquoi crois-tu en Christ? Qu'est-ce que cela t'apporte? Ce n'est pas notre religion. Notre religion, c'est l'hindouisme. Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne sont méprisés. Ce sont des intouchables. Ils me menacent et me persécutent. »
À plusieurs reprises, nous avons vu les hindous manifester avec leur slogan contre les chrétiens. Ils parlent d'éliminer les chrétiens, d'éliminer les pasteurs de l'Inde, de supprimer les étrangers, de placer les divinités Rama et Krishna dans les églises.
Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur un sommet. Une ville sur un sommet ne peut être cachée. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à un regain de persécution de la part du gouvernement, même si vous voulez vous cacher, vous ne pourrez pas.
De quoi t'accusait-il ?
Accusé ?
Oui, qu'est-ce qu'il disait qui n'allait pas ? Quel était ton crime ?
Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit « tu t'opposes au gouvernement » parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. Ils ont aussi dit que j'insultais leur saint, ce qui est un total mensonge. Je suis resté en prison pendant 3 ans et 1 mois. Wow, le premier jour de prison. En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable. C'est un autre monde. Nous pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation. Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse.
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?»
Après quelque temps que j'étais en prison, Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle, j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. Ça ne tournait qu'autour de moi. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, « Mojtaba, arrête d'être égoïste. Si tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. » Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens, beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qu'il aimait. Et Jésus me disait, c'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire.
No one can do it. Of people.
100% des gens en Iran sont musulmans. Et surtout en prison, le christianisme est quelque chose de très étrange. Quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens, ils étaient choqués. Wow, c'est un crime d'être chrétien ? Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit, rien ne peut m'arrêter. Qui peut m'arrêter ? C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur, peu importe notre situation, ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour le royaume de Dieu. Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu pour son royaume.
Amen. C'est vraiment un témoignage donc de ce frère iranien là. C'est à la fois ça nous impressionne un peu, puis c'est dit, Seigneur, mais tu es grand. Tu fais des choses merveilleuses parce que tu donnes des opportunités que nous n'irions pas chercher. Donc ce qui a été dit donc durant ce week-end et à d'autres moments, ce que fait Portes Ouvertes, c'est préparer l'Église. Et donc préparer l'Église, on va dire l'Église qui est l'objet de persécution. Mais pour moi, et vous allez sûrement être d'accord avec moi, toute l'Église partout sur la terre, à chaque fois qu'elle annonce l'évangile, s'oppose à quelque chose. Et donc, nous sommes potentiellement visés par des réactions des uns et des autres. Et donc, quand on prend Timothée, 2 Timothée, donc 3 à 12, et Paul parle à son disciple. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand vous lisez ça, peut-être vous l'avez jamais lu, mais on n'a pas envie de dire amen. Et pourtant, c'est la vérité. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il va un peu plus loin, donc en décrivant à la fois les moments qu'il vivait à ce moment-là, mais ce qu'on peut toujours vivre aujourd'hui. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ah. Et donc, préparer l'Église. C'est donc les deux choses qui sont importantes dans ce verset 12, c'est vivre pieusement. Et on pourrait dire, si on enlève pieusement, ça devient un peu plus facile. Mais ce n'est pas le bon plan. Quand nous décidons à marcher avec Jésus, c'est une décision ferme et non pas une hésitation. Et c'est vrai que si nous sommes sur la berge pour prendre une barque, si nous restons un peu trop longtemps entre la berge et puis la barque, nous allons faire le grand écart, nous allons tomber à l'eau. Alors après, ça peut nous arriver, mais il faut vite remonter dans la barque. Mais c'est une position inconfortable que de se décider pour Jésus et puis de rester entre deux eaux et de faire le grand écart. Et bon, j'arrive pas à vous le passer. Et donc, pieusement donc, veut dire fidèlement. Et on va dire dans l'intégrité de la parole de Dieu, celle qu'on a reçue dans nos cœurs, c'est-à-dire bien scellée dans nos cœurs, mais pas dans notre tête. Et lorsque les choses ne sont pas vraiment écrite dans notre cœur, on peut demander aussi au Seigneur, mais révèle-moi ces choses, Seigneur. J'ai besoin d'avancer avec toi, besoin de comprendre quelle était ton idée, quelle était ta pensée lorsque tu as donné ça aux gens qui ont écrit ces choses. Et donc quand on dit intégrité déjà, ce qui est proche, c'est intégriste. Je ne sais pas si on vous a dit quelquefois que vous étiez des intégristes. Jamais ? Si, oui, ça arrive. Hein. Qu'on nous dit, oui, vous êtes un peu intégriste quand même. Hein. Et en fait, c'est quand vraiment on donne notre position, celle que la parole de Dieu nous donne, celle que Dieu nous a mis à cœur. Et face à l'ultra-laïcité qui monte dans ce pays, il y a des choses qui sont maintenant difficiles à annoncer. Des pratiques qui sont difficiles aussi, quelquefois dans une église. Et je pense à l'association Torrent de Vie, qui est aujourd'hui un peu dans la tourmente, parce qu'en fait, ils accueillent des gens qui sont dans l'homosexualité, par exemple. Je dis bien, ils accueillent, on ne force pas les gens à venir. Et donc, ils ont été attaqués sur le fait, sur ce qu'ils pouvaient dire, sur ce qui était pratiqué. Et. Ça, c'est en France. Hein. Ce n'est pas au Moyen-Orient, c'est bien en France. Et donc forcément, que dans les temps à venir, il y a des choses comme ça qui peuvent se présenter. Parce que nous, on va rester dans la ligne du Seigneur, dans la ligne de ce que le Seigneur veut pour nous, veut pour les autres, ceux que nous accueillons. Mais les lois de ce pays ne sont pas forcément les mêmes. Et nous sommes aussi dans un temps de grande convoitise. Et ce qui fait notre fragilité, c'est d'être séduit par un tas de choses qui peuvent nous endormir d'une façon ou d'une autre, en fait nous éloigner d'une foi vivante. Donc voilà pour le vivre pieusement et en Jésus-Christ. Et ça me fait penser à la prière de Jésus dans Jean 17, au verset 23. Là, on est un peu trop loin. Voilà. Jean 17, verset 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Moi en eux. En fait, ça, c'est toute la vie chrétienne. C'est la nouvelle naissance. Christ vient habiter dans notre cœur. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Et donc, en Christ, nous devenons donc des témoins. Et donc, celui qui vit en nous a quelque chose à dire, à nous dire à nous, mais à dire aux gens qui sont autour de nous. Et donc, nous pouvons dire comme Mojtaba, cet Iranien, ou comme Pierre et Jean, nous ne pouvons plus nous taire. Comme ce pasteur chinois aussi qui disait, mais vous ne pouvez plus vous cacher. C'est impossible. Et donc, préparer l'Église, c'est vraiment qu'elle soit ici en France ou l'Église qui est persécutée réellement au quotidien. Et notre secours, il est seulement en Jésus-Christ. Nous n'aurons pas d'autres moyens. Nous n'aurons pas d'autres moyens que d'être au bénéfice de la croix. Croyons pas que ce soit des arguments humains que nous pourrions étayer avec une foule de défenseurs, d'avocats de ce monde. Celui qui nous défend, c'est l'avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui qui met les paroles dans notre bouche quand nous aurons à nous défendre. Et Galates 2:20 qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Je l'ai déjà dit, ce verset-là m'a bouleversé, parce que à la fois il me confrontait à ce que je vivais, il me confrontait à ce que Jésus veut faire à travers moi, à travers vous. Et la décision d'être à Christ, c'est la décision de devenir disciple. C'est ce que nous disons au moment de notre engagement dans les eaux du baptême, devenir disciple. Ce n'est pas un suiveur ordinaire. Le disciple, il participe avec le Seigneur. Il participe d'autant plus que le Seigneur vit en lui et que sa ressource n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Et la foi de Mojtaba, de tous les autres que vous pouvez voir sur le site de Portes Ouvertes, c'est cette foi-là. Les témoignages qu'on a reçus, c'est ceux-là. Et donc, le Seigneur nous dit... Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi que tu es rejeté, que tu es repoussé, qu'on ne te comprend pas. C'est à cause de moi si tu es persécuté. Et je suis avec toi. Et donc l'opposition de l'Église a toujours provoqué sa croissance. Et je vais reprendre courtement le témoignage de Michel Varton, donc, qui est l'ancien directeur de Portes Ouvertes, que j'espère nous aurons l'occasion d'accueillir maintenant qu'il est un peu plus disponible. Et il nous a parlé de trois choses et qui souvent moi m'encouragent. En fait, c'est face à une situation de dire « Seigneur, mais quelque part, qu'est-ce que tu fais quoi ?» Et la situation de l'URSS, donc l'ancien empire communiste qui était sur toute cette partie de l'Europe et de l'Orient, et donc il y avait un rideau de fer, hein, c'était clair, autour de ces pays, et le communisme voulait éradiquer complètement toute forme de religion, et donc les chrétiens. Et la persévérance des chrétiens à vouloir encourager de différentes façons donc ces chrétiens qui étaient isolés. Donc dès qu'ils étaient découverts, ils allaient au goulag, hein, il n'y avait pas d'autre solution. Et donc il y a eu tous ces voyages, que ce soit en voiture, que ce soit en camping-car, en caravane, avec des Bibles. Et donc peut-être vous avez connu des gens qui ont fait ça, moi j'en ai connu deux, et c'est vrai que c'était vraiment des expériences, il y en a d'autres maintenant à vivre, hein. Et ils apportaient donc des Bibles de l'autre côté de ce rideau de fer. Et donc Michel Varton disait, donc il y a eu 7 ans de prière, donc de 84 à 2001, pour cette région du monde, pour quelque chose se passe, quoi. Et au début, rien ne se passait. Et à partir de 87, il y a un grand nombre de prisonniers religieux qui ont commencé à être libérés. Et donc en 85, donc, il y avait 340 prisonniers. Et donc en 1990, il n'était plus que 17. Et donc, les actualités nous ont rappelé qu'il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait. Et les explications, on voit mieux maintenant. Alors peut-être que certains peuvent trouver des explications logiques, mais ce qu'on sait, c'est que c'était inattendu, et c'est qu'à un moment donné, le Seigneur était à l'écoute et était au travail dans cette région du monde. Donc il y a tout un temps de ténèbres où il ne se passe rien, et d'un coup, tout s'écroule, quoi. Et donc, tous ces pays-là ont pu être d'une façon beaucoup plus libre, aidés, à travers des frères et sœurs qui allaient, mais à travers aussi la littérature qui allait vers là-bas. Pour la Chine, au début du communisme, donc il y a 70 ans, il y avait 600 000 chrétiens estimés qui se cachaient. De la même façon, le pouvoir chinois voulait se débarrasser de la foi chrétienne. Aujourd'hui, vous savez combien ils sont ? Ils sont près de 100 millions. C'est sans doute le pays où il y a le plus de chrétiens. Et ce que disait Michel Varton, c'est qu'il y a plus de chrétiens que de membres du Parti communiste. Est-ce qu'il y a eu des grandes campagnes d'évangélisation ? Est-ce qu'il y a eu des grands hommes, des grands leaders publiquement annoncer l'évangile ? Non. Le Seigneur est tout-puissant, même si nous ne voyons rien. Et donc... Ensuite, pour le monde musulman, de 1991 à 2001, il y a eu 10 ans de prière et rien ne changeait, apparemment. Mais Dieu répond aux prières et il n'y a jamais eu autant de musulmans convertis de façon tout à fait étonnante. Vous pouvez en lire des témoignages de guérison surnaturelle, mais sans que personne n'intervienne, de songes, de pensées qui viennent et... de convictions qui viennent dans le cœur des musulmans et qui se tournent vers Jésus. Et donc, je vous le dis quand même, en Iran, il y a aujourd'hui 800 000 chrétiens. C'est pas rien, sur 82 millions. Ça fait 0,9%. Nous, en France, on est autour du 1%. Si vous cherchez un terrain d'évangélisation, allez en France, je vous paye le ticket. Ça ne va pas me coûter cher. On est vraiment un pays qui a besoin de l'évangile. Et donc là où l'Église est persécutée, c'est là aussi où elle grandit le plus vite. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, bien sûr. Et Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Et nous avons un privilège infini, c'est de travailler avec lui. Amen. Alors, je vais raccourcir un petit peu. Donc, vous pourrez lire Philippiens 1, de 12 à 30 et quelques, où là, c'est Paul qui parle de ses conditions de détention, de comment il le vit, et comment c'est pour la gloire de Dieu qu'il est sous les... qu'il est enfermé. Et donc, j'ai découvert ça, peut-être vous le saviez, le mot grec, martyr, signifie témoin. Puisque les premiers témoins étaient aussi, je vais dire presque automatiquement, des martyrs. Et l'Église persécutée souffre beaucoup, mais vraiment témoigne d'une joie anormale, on va dire. Et c'est flagrant. C'est une joie surnaturelle que le monde ne peut pas produire, c'est vrai. Et Philippiens 4,4 nous dit « Réjouissez-vous toujours !» Je les répète, « Réjouissez-vous toujours !» Donc le thème de la joie est donc dans cet épître de Philippiens. Et c'est vrai que quand on pense à Paul, il aurait pu être découragé avec ses chaînes, avec aussi l'humiliation qu'il avait d'être en prison. Et quand vous lisez ça, c'est un véritable encouragement qu'il donne. Et donc dans le verset 20, il dit « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Relisez ce passage où c'est vraiment son témoignage à Paul, c'est un témoignage vraiment édifiant que quelles que soient les circonstances, quand nous sommes à la place que le Seigneur a voulu, il nous donne la possibilité, quelles que soient les conditions, de vivre cette situation. Matthieu 10, 23 nous dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Il ne s'agit pas de rechercher, bien sûr, à être martyr de façon quasiment suicidaire, mais de chercher, quels que soient les événements à venir, comment exprimer la nature du royaume de Dieu. Puisque nous sommes des témoins, témoins de quelque chose, témoins de la nature du royaume de Dieu. Donc vous avez vu ce pasteur donc chinois qui, 2 mois après avoir fait une déclaration de vivre à contre-courant, a été mis en prison. Alors la Chine, vous, sans doute vous le savez, il y a tout ce système de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale. D'ici quelques temps, il y aura 2 caméras par habitant, donc rien ne peut échapper. Et j'ai demandé à un frère, donc, lorsqu'on était là-bas, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont comme ça ? Il m'a dit oui, l'Inde, parce que les Chinois ont vendu la technologie à l'Inde. Donc imaginez nos frères aussi en Inde, la surveillance qu'il va y avoir. C'est pas ici en France, aujourd'hui, mais la technologie est possible, elle n'a pas trop de frontières. Hein. Et vivre à contre-courant, est-ce qu'on est prêt à payer le prix ? Et donc ce pasteur était inspiré pour donner ce message et encourager les frères et sœurs qui étaient là. C'est une église de 750-800 membres. Et donc forcément que sa déclaration n'allait pas passer inaperçue. Donc je vous propose de lire cet engagement à contre-courant, de vie à contre-courant. Donc ce n'est pas un appel révolutionnaire ou anti-gouvernemental, mais une invitation à vivre pour Dieu, en unité aussi avec nos frères et sœurs qui sont dans ces pays persécutés, où il y a la persécution. Donc je sous-signais, reconnais qu'en tant qu'enfant de Dieu, le fait de vivre à contre-courant est la conséquence du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous de ne pas suivre les préceptes de ce monde, mais de témoigner d'un autre monde, celui du royaume de Dieu. En tant que chrétien, chrétienne, je m'engage à vivre ouvertement ma foi malgré les attentes et les opinions de ceux qui m'entourent. Je resterai attaché à Christ tout en comptant sur sa grâce. Même si des difficultés apparaissent, ma vie doit témoigner de Dieu et ma priorité et que ma pardon, ma vie doit témoigner que Dieu est ma priorité et je serai intègre pour dire la vérité. Quel que soit le régime politique ou la société dans laquelle je me trouve, je continuerai à vivre à contre-courant. J'obéirai à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quoi qu'il arrive, je suis prêt ou prête à me soumettre au plan de Dieu, car ses plans sont toujours bienveillants et bons. Si vous souhaitez avoir cet engagement, je peux vous le fournir. Donc voilà, c'est Siméon qui va prendre le relais. C'était à la fois pour que nous, notre Église, que chacun d'entre nous, qui vivons au calme, en paix, vous sentiez vraiment associés à cette partie du corps qui est persécutée, mais aussi à vous dire ces choses-là sont toutes proches de nous. Je vous ai parlé de l'œuvre de Torrent de Vie. J'ai lu dernièrement qu'un professeur a pris un extrait de la Bible pour son cours. Ben, on l'a poursuivi pour ça. Donc on va continuer avec toi, Siméon. Et puis nous aurons un temps de prière tout à l'heure.
Bonjour. Jean-Luc a déjà dit pas mal de choses. Je vais insister, moi, sur un petit peu la partie, on va dire, qui m'a le plus touché. On va dire le monde un peu plus musulman. On a eu plusieurs témoignages qui étaient quand même grandioses. Et une des premières choses que je peux vous dire, c'est que la persécution est de plus en plus dure, mais la bénédiction, elle est encore plus énorme. Ça se vit de plus en plus. Il y a de plus en plus de combats, dans de plus en plus de pays, mais on voit la main de Dieu agir de plus en plus. Moi, j'ai vraiment été touché par plusieurs pays où on a donné vraiment des précisions, des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Comment Dieu fait ça? Parce que tout simplement, il se sert de l'homme pour agir, et c'était vraiment impressionnant. Je me suis dit, mais Seigneur, on est quoi nous? Qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais juste commencer par ce verset que j'ai reçu d'un ami de Porte Ouverte qui a fait un challenge, une course, un marathon à New York. Dans Deutéronome 31, l'Éternel, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Dans les pays musulmans, c'est malheureusement pas nouveau, qu'ils soient un peu ou beaucoup fermés, c'est globalement très dur d'être chrétien. On doit y vivre, comme l'a dit Jean-Luc et le week-end, à contre-courant totalement. C'est également très dur de quitter l'islam, qui est une religion d'État, et c'est de plus en plus marqué sur vos papiers et même votre pièce d'identité. On y adopte des lois anti-conversion de plus en plus, et il y a de plus en plus un repli communautaire et extra-communautaire. On ne peut pas en sortir. Je voulais faire dans mes différentes notes un lien avec ce qu'on avait vu, la vidéo de cette pastorale, où on voyait un certain nombre de pasteurs derrière Samuel Peter Schmitt. Ça me paraissait important de vous reparler de l'Algérie. Il y a quand même eu 12 églises fermées en 2 jours, dont la plus grande, qui fait 1600 personnes, à Tizi Ouzou, et qui est également la 4e plus grande du monde arabo-musulman. Un des collaborateurs sur place en Algérie s'est retrouvé 14 fois au tribunal. Les responsables là-bas sont régulièrement éprouvés et convoqués au commissariat. Quasiment à chaque fois, c'est la même chose. Ils rendent témoignage et c'est une grande bénédiction. Une petite scène toute simple, quand le commissaire ou l'officier de police vous reçoit, il est presque éprouvé, plus que vous, et fatigué, qui lui demande clairement: qu'est-ce que vous allez me dire? Que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est amour? Oui, monsieur, Dieu est amour. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, je vous redis, Dieu est amour. Mon Dieu est amour et je suis content d'être avec vous pour en parler. Bon, écoutez, monsieur, on ne va pas y passer la journée. Je vous aime beaucoup, ça fait plusieurs fois que je vous vois. Je sais que votre Dieu est amour, encore une fois. Essayez de ne pas trop faire de bruit, mais de toute façon, on va se revoir. Voilà ce qui se passe beaucoup et de plus en plus dans les commissariats. Une église a ouvert il y a à peu près 5 ans. En 5 ans, il y a eu 3500 conversions. Le propriétaire d'une de ces églises, un musulman, qui était donc paralysé et en fauteuil, complètement malade, a été invité, étonné et interpellé par ce qui se passait comme activité dans cette église. Il a été instantanément guéri. Il est reparti en poussant son fauteuil. Un des projets de l'Algérie, à l'horizon 2021, donc c'est quand même très proche, c'est de former 1000 missionnaires pour l'Algérie et pour l'Afrique globalement. Malgré une très grande répression depuis des années maintenant, de plus en plus de chrétiens se réunissent. Des musulmans se convertissent, non seulement dans les églises, mais aussi dans les mosquées. Et ça aussi, ça m'a interpellé. Dieu vient chercher dans la mosquée, il se révèle. Une musulmane qui était en prière, de façon tout à fait quotidienne, dans la mosquée, a eu cette vision pendant la prière d'un homme qu'elle ne connaissait pas en face d'elle. Ça l'a interpellée, choquée. Elle est revenue dans la semaine. Et cette vision, ce personnage, lui a dit clairement « Je vais t'apprendre à prier ». Elle a eu cette vision deux fois. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle est vraiment choquée. Elle est allée chez des amis. Et elle a vu donc à la télévision, dans une émission télévisée chrétienne, c'était qui? C'était un des prédicateurs, tout simplement, de l'émission chrétienne, qui lui avait été révélée dans la mosquée. Beaucoup de chrétiens passent à la télévision, et comme les églises sont de plus en plus remplies, ça fait bien évidemment de l'audimat, les autorités sont très intéressées, ça fait de l'argent aussi, et du coup, les émissions passent de plus en plus dans les églises, dans les villes, et maintenant, elle passe dans tout le monde musulman. Ce qui inquiète beaucoup les gouvernements, parce qu'ils se demandent, ils ne veulent pas de ça, mais malheureusement, c'est un phénomène qui prend une très grande ampleur. Les dirigeants ont bien évidemment très peur. Ils savent très bien que c'est efficace. Plus ça se propage, plus les gens s'y intéressent. Et eux ne peuvent rien faire. Il y a quelque temps de ça, la chancelière allemande Angela Merkel a fait une visite, comme le font les chefs d'État, en Algérie, et elle s'est étonnée de la situation des chrétiens. Elle a fait part à un des hommes politiques algériens, et dit comment ça se fait, que c'est aussi fermé et qu'on n'a pas le choix de rester silencieux. Le jour même, ou très peu de temps après, plusieurs églises rouvraient. Elia est un pasteur kurde irakien qui était sunnite et qui faisait partie même d'un groupe islamiste armé. Il ne comprenait pas, étant né dans une famille musulmane, bien sûr, très pratiquante, il ne comprenait pas le sens et la vision du Coran, malgré toutes ses méditations. Il a donc été dans une école coranique. Il a étudié pendant des années. Il a décortiqué le Coran. Il ne comprenait pas. Pourquoi tant de haine, tant de méchanceté? Pourquoi j'arrive pas à m'y retrouver? Pourquoi dans ma famille, il n'y a pas d'amour? Pourquoi dans mon couple, il n'y a pas d'amour? Pourquoi dans ma famille, il n'y a pas d'amour? Il faut savoir que dans beaucoup de familles musulmanes pratiquantes, entre mari et femme, on ne se dit jamais « je t'aime ». Jamais. Au Kurdistan, il y a 5000 mosquées. 300 dans la ville où habite Elia, et où la grandeur d'Allah est systématiquement proclamée. Quand il s'est converti, son propre frère a voulu le tuer 3 fois. Je voudrais aussi vous parler du pasteur Boutros. D'ailleurs, pour ceux qui en ont envie, je vous conseille vraiment de lire son livre. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Chrétien de l'ombre », que j'ai lu, qui était très intéressant. Il a parlé récemment avec plusieurs musulmans qui reconnaissent clairement que Dieu est amour et qu'il prend soin des chrétiens. Entre autres, il a parlé à l'avocat d'Asia Bibi, qui est maintenant en sécurité au Canada avec sa famille. Cet avocat, qui est un musulman aussi fidèle et pieux, lui a dit très clairement, je vous assure que Asia Bibi a été libérée grâce aux prières des chrétiens. Il n'y a que ça. Une chose est sûre, selon moi, un voile se déchire clairement sur le monde arabo-musulman. Même si on ne le voit pas forcément concrètement, Dieu déroule son tapis. On ne voit pas la fin du tapis, mais le tapis se déroule grâce à nos prières. Dieu applique son plan clairement. Les retours des chrétiens sont très encourageants. Moi, j'ai été encouragé par ce témoignage d'un frère colombien qui était lui-même touché en passant devant le stand du sport et qui disait « Waouh, vous courez pour reconstruire des maisons et pour qu'on puisse éduquer nos enfants et les protéger. » Moi, j'ai reçu vraiment des encouragements. Alors qu'on va les encourager, c'est eux qui nous encouragent. Je voudrais conclure avec deux mots qui m'ont paru essentiels pendant ce week-end, qui sont pour moi la base d'une relation en Christ. Et ce que j'ai reçu de la part de ces chrétiens, c'est l'amour et le pardon. Pour moi, c'est essentiel et indispensable. Et c'est vraiment une base d'une vie selon Christ. Les chrétiens persécutés le comprennent très vite. Dans des milieux très hostiles, bien évidemment, à l'Évangile, ces deux mots sont très souvent combattus, mais aussi lumière dans l'obscurité. C'est difficile de transmettre l'amour de Dieu à l'autre, de pardonner à celui qui touche et qui veut atteindre votre environnement très cher et très précieux. Mais en même temps, cela nous incite à sacrifier ce qui nous est cher à nous et à déchirer notre propre voile. Je pense vraiment qu'on a un voile et qu'il se déchire que quand on aime et quand on pardonne à l'autre. Dieu nous donne clairement cette mission encore ce matin, d'aimer et de pardonner. Je vais juste partager un dernier verset avec vous, dans Apocalypse 3, au verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, la tentation qui va venir sur le monde. » Pardon. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » On va peut-être passer au sujet de prière. On a listé avec Jean-Luc un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si tout le monde les voit d'où vous êtes. Je vais vous les lire directement. Donc l'Algérie, que le gouvernement accorde et laisse la liberté de culte aux chrétiens. Pour la réouverture des églises. En Inde, la protection des responsables d'église. Comme il a été dit, il y a de plus en plus de pasteurs qui sont appréhendés et tués. Prions pour la protection des chrétiens, qu'ils aient beaucoup de sagesse dans l'annonce de l'évangile. La Colombie, donc ce dont je vous avais parlé il y a quelques semaines de ça. Donc toujours pour la protection des enfants mineurs, qu'ils puissent avoir logement, nourriture, enseignement biblique et scolarisation, ça paraît très logique pour nous, mais dans d'autres pays, ça ne l'est pas du tout. Iran, le monde musulman et la Chine, ce que Jean-Luc nous a partagé. Et donc Patrick Victor, donc beaucoup de vous ne le connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Juste pour parler de lui, en fait, c'est un... Alors, il a plusieurs nationalités. Je crois que c'est sa maman ou son papa qui est indien et allemand. Sa femme est américaine et ils habitent en Belgique. Donc ils sont à Strasbourg depuis quelques mois maintenant, officiellement. Patrick Victor, il était directeur commercial d'une grande entreprise, donc en Belgique, sensible à l'église persécutée, mais pas forcément impliqué énormément. Et donc depuis que le poste de Michel Vartan était vacant, il y avait donc une fiche de poste avec plusieurs critères. Évidemment, on ne s'y intéresse pas comme ça en se levant un matin. Tiens, je vais aller travailler, mais je ne sais pas quoi faire. C'est son épouse particulièrement qui priait aussi beaucoup pour ça et qui a vu la fiche de poste et qui lui a dit « Mais ça, c'est pour toi, c'est fait pour toi. » Donc ça a pris du temps. Merci pour vos prières aussi parce qu'on en avait parlé depuis déjà plusieurs mois. Et donc voilà, pour qu'on prie pour sa nouvelle mission à Portes Ouvertes, quelque chose qui m'a été confié par certains équipiers de Portes Ouvertes, c'est vrai que ça a pu faire peur au début parce que étant dans le commerce, quelles sont ses motivations ? Le directeur commercial, c'est pas rien, il avait un poste très intéressant, élevé, et c'est aussi beaucoup de management. C'est une toute autre vision de l'entreprise. Donc pour des projets qui soient conduits par Dieu, pour sa vie spirituelle à lui, pour son intégrité, l'amour et l'attachement envers l'Église persécutée. Et je crois que c'est tout. Donc je vous propose...
Avant, si on peut revenir sur la... cette diapo-là, en fait, donc Islam, frère André a utilisé le mot Islam comme un acronyme, et donc qui dit, donc en anglais mais en français, j'aime sincèrement tous les musulmans. Donc on voit sa disposition de cœur à aller vers l'autre, même celui qui s'oppose, même celui qui pourrait être son propre bourreau. J'aime sincèrement tous les musulmans. Et donc c'est en cet esprit que nous allons prendre les sujets de prière. Donc on va rester à notre place, et donc vous pouvez élever la voix simplement sur ces sujets qui ont été donnés, donc l'Algérie, l'Inde, la Colombie, l'Iran, le monde musulman, la Chine, et puis Patrick Victor, donc dans sa nouvelle mission, donc à portes ouvertes. On peut prendre quelques minutes pour ça ? Seigneur, nous te louons, parce que Seigneur, quand tu dis que tu connais le nombre de nos cheveux, de ceux qui peuvent tomber à terre, à bien plus forte raison, Seigneur, tu vois nos frères et sœurs qui sont dans ces pays où il y a la persécution. Seigneur, je te prie pour l'Algérie où il y a eu et il y a encore, Seigneur, des fermetures d'églises, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que la foi de nos frères, de nos sœurs, grandisse encore, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de leur donner la sagesse dans le déroulement de leur vie, dans le déroulement de leur activité chrétienne, église et association. Tu leur donnes, Seigneur, de ta part, Seigneur, le mode à suivre, Seigneur, la direction à suivre, Seigneur, afin que ton Église rayonne dans ce pays et tout autour. Tu vois l'intention qu'ils ont de former 1000 missionnaires, Seigneur, pour aller, Seigneur, en Afrique. Seigneur, merci de les équiper, Seigneur. Merci, Seigneur, de donner des liens étroits aussi avec ce pays, de les renouveler, Seigneur. Amen.